Vous êtes sur Studio ZEF à Blois ou Radio Béton à Tours et c'est l'heure de Feuilles Vives, l'émission de reportage entre ville et campagne.
Quinzième émission de Feuilles Vives, pas de reportage aujourd'hui, mais une émission en forme de bilan après 7 mois d'expérience. Une discussion entre Nicolas, le reporter de Feuilles Vives, et moi-même, Lolita, enseignante à l'école du paysage, qui, avec Studio ZEF, est à l'initiative de ce projet. Entre ville et campagne, c'est un monde dont nous ne connaissons pas grand-chose. Un monde complexe qui parle tant d'agriculture, de logement, de projets individuels ou de modèles collectifs. De ces petites choses qui constituent ce que serait une vie périurbaine. Alors, on s'est dit que dans une ville moyenne comme Blois, ces espaces pratiqués par presque chacun, parce qu'il y habite, parce que ses parents y habitent, parce qu'il y connaît un viticulteur, parce qu'il le traverse pour aller travailler, parce qu'il y va en forêt, ces lieux méritaient une enquête. Pour mieux les regarder, pour mieux les entendre, et voir ce que l'on ne voit pas, mais voir aussi ce que l'on se refuse de voir. Je me souviens en 2010 de Télérama qui titrait en grosses lettres sur fond d'entrée de ville son numéro « Comment la France est devenue moche ». Un article qui fustigeait 50 ans de politique publique et de rêves de campagne pour évoquer des extensions urbaines qualifiées de métastases périurbaines. Un an plus tard, Éric Chauvier, anthropologue, publiait aux éditions Alia un petit livre qui s'appelait « Contre Télérama » et qui prenait un contre-pied celui des habitants eux-mêmes de ces périphéries. En disant, ceux qui observent le monde de façon professionnelle se servent de mots-clés pour faire autorité. Et donc il s'agissait d'aller plus en profondeur dans le quotidien des gens, essayer de comprendre ce que ces périphéries étaient. C'est ce que fait Feuilles Vives, avec l'a priori que ces espaces périurbains, ces franges habitées, ces villes qui n'ont plus de nom et ces campagnes qui n'ont plus d'agriculteurs, portent en eux les conditions de leur renouvellement, de quoi décaler tous nos modèles. Pour cela, Nicolas est parti se perdre entre routes et villages, entre zones pavillonnaires et grandes distributions, pour regarder entre les lignes ses essais, ses expérimentations, ses initiatives individuelles qui rencontrent des enjeux collectifs. Une émission qui éclaire le laboratoire d'une ville moyenne par une enquête sonore, et nous avions envie d'en parler avec le principal intéressé. Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Alors aujourd'hui, tu n'es pas sur le terrain. Mais tu es en studio pour nous parler de toutes ces aventures que tu as déjà réalisées. Alors, combien de documentaires as-tu réalisé pour le moment ?
Alors, il y en a 14 qui ont été diffusés et il y en a un autre qui est prêt pour le début de janvier.
Donc déjà pas mal de connaissances, pas mal d'expériences, de rencontres, puisque j'imagine que parmi ces 15 documentaires, ces 15 reportages, tu as rencontré plusieurs personnes à chaque fois, donc ça représente déjà pas mal de gens.
Ouais, ça fait pas mal de gens, et ce qu'on remarque souvent aussi, c'est qu'on revoit les mêmes personnes qui étaient sujets de reportages un jour et qui deviennent soit publics, soit participants le jour d'après, quoi.
Ouais, tu finis par recroiser les mêmes têtes.
C'est ça, ouais. On sent vraiment, parce qu'il y a à la fois une force et une faiblesse, parce qu'on sent vraiment qu'il y a un réseau associatif, un tissu associatif qui est très fort à Blois et qui se propage aussi bien dans les domaines de la culture que de l'agriculture, que des circuits commerciaux. Donc ça donne une vraie force et une vraie cohérence à tous ces projets. Et d'un certain côté, c'est un problème parce que ça reste toujours ce groupe relativement restreint de personnes avec à peu près les mêmes origines, les mêmes références, qui sont déjà porteurs d'initiatives, mais qui sont aussi bénéficiaires de ces initiatives et bénéficiaires de ces subventions.
Voilà. C'est vrai, quand on a commencé le projet, on se disait, il y avait aussi un peu cette a priori de départ, de dire, finalement, toutes ces initiatives que tu documentes, elles peuvent peut-être fabriquer, en se mettant en réseau, un vrai changement. Mais là, dans ce que tu racontes, c'est qu'effectivement, ces personnes sont déjà en réseau, un petit peu, plus ou moins.
Oui, bien sûr. Ouais.
Alors au début du projet, il y avait plusieurs thématiques que tu avais identifiées, je crois. Est-ce que tu peux revenir sur les principales thématiques qui t'intéressaient pour documenter cette relation ville-campagne ? Par quel sujet tu l'as abordé ?
J'ai beaucoup pensé au début à l'agriculture et aux circuits de commercialisation. Parce qu'on se dit relation ville-campagne, c'est une relation agriculture, enfin terre agricole, terre non agricole, d'un certain côté. Et c'est vrai que l'agriculture, l'évolution, le développement récent de l'agriculture, ça, c'est allé plutôt vers un allongement des circuits de commercialisation et une perte de contact entre les agriculteurs et le reste de la population, et dont la population rurale en fait. Aujourd'hui, les gens qui connaissent même, ne serait-ce qu'un seul agriculteur dans leur commune, comment fonctionne son exploitation,
C'est rare.
C'est quelque chose de devenu très rare aujourd'hui. C'est assez fou quand on y pense, quoi. Et donc c'est vrai qu'au début, j'ai pensé ville-campagne. J'ai pensé d'abord à cette relation-là, producteur-consommateur. Et c'est vrai que les initiatives pour rapprocher les producteurs et les consommateurs abondent. Donc c'était aussi assez simple d'aller dans cette direction-là.
Et donc, ensuite
Après, il y a eu la culture aussi, la culture en milieu rural. Où on se dit comment des terres où qu'on pas de, peu de voire pas de, d'infrastructures culturelles vont recevoir la culture chez eux, quoi. Et donc là, très rapidement, parce que c'est des initiatives qui intéressent les médias, qui intéressent, donc on peut tomber très facilement sur des festivals en milieu rural ou des choses comme ça. C'est des choses qu'on a connues aussi en tant qu'habitant du territoire, des événements culturels, ça nous intéresse aussi à titre personnel.
Est-ce que par rapport à ces grandes thématiques que tu avais un peu identifiées au début, est-ce que c'était nécessaire pour toi que la thématique soit clairement identifiée, ou est-ce qu'au fur et à mesure de tes expériences de reportage, parfois vraiment les sujets se chevauchaient entre eux, tu pouvais parler vraiment autant, par exemple, dans un même sujet d'environnement que de mode de vie périurbain, enfin. Est-ce que c'est important qu'une thématique dirige ton reportage au départ ?
Non, l'important c'est pas la thématique, je pars plutôt de l'initiative. Après, bon, c'est une manière de fonctionnement de travailler que de classer par thématique. Mais nécessairement, presque un sujet va recouvrir plusieurs thématiques. Il y en aura une principale, mais ce qui compte pour moi, c'est avant tout de présenter l'initiative et de dire en quoi elle influe positivement, négativement ou non sur le rapport ville-campagne, quoi. Donc non, au contraire, c'est le même effet qu'avec ce réseau-là. On voit que toutes ces thématiques-là, elles sont très connectées finalement.
C'est un peu tout l'intérêt de ces initiatives, c'est ce décloisonnement finalement entre thématiques. Et du coup, ça amène aussi, comme tu le disais tout à l'heure, un décloisonnement entre acteurs, entre personnalités aussi sur le territoire. Dans tes reportages, on entend clairement parfois le frottement plus ou moins facile entre deux cultures ou deux postures, entre des acteurs, comme tu le disais, plutôt de culture urbaine et des acteurs qui vont être vraiment de culture rurale, ou ça peut être aussi juste des incompréhensions liées à des intérêts ou des fonctionnements différents. Et ça, c'est ce qu'on entend très bien, je trouve, dans tes reportages à chaque fois, c'est ces différentes voix qui viennent pas du même endroit, mais qui, à un moment donné, se rassemblent derrière une initiative. Qui est généralement le projet à partir duquel tu pars. Et parfois, on peut aussi se dire que ça provoque parfois du conflit. Est-ce que ce frottement entre acteurs, c'est quelque chose c'est pas du frottement entre acteurs, mais est-ce que ce frottement entre des modèles, des cultures et éventuellement même des personnes qui ont des statuts différents. Tu l'as expérimenté. Est-ce que c'est facile de recueillir leur point de vue alors qu'ils n'ont pas du tout la même culture.
Parce que toi, tu as trouvé que dans les reportages même, il y avait des fois des tensions qu'on devinait
On devine, même entre des habitants qui racontent leur mémoire du territoire, par exemple, et le paysagiste de dérive, on, même si leur intérêt est commun, qui est de parler de leur territoire à ce moment-là, à un instant T, on comprend que les deux viennent de trajectoires très différentes et n'ont pas du tout les mêmes modèles. Et en même temps, c'est ça qui est intéressant, je suppose, mais ça doit pas être facile. Enfin, moi, je me suis dit, ça doit pas être facile à documenter.
Non, c'est vrai que c'est pas évident. D'une part, parce que moi-même, je suis dans cette situation-là de ces gens qui ont habité longtemps dans un village sans rien en connaître, et qui est parti après faire des études et qui a conservé un habitat urbain pendant longtemps. Donc, c'est des thématiques auxquelles je me suis intéressé récemment comme premier concerné finalement. Et c'est vrai que naturellement, je vais avoir une conversation très facile avec des jeunes gens, avec une culture urbaine éduquée et qui en plus sont intéressés par ces thématiques-là. Plus facile avec ces gens-là qu'avec des gens qui ont vécu toute leur vie à la campagne et qui vont avoir un langage différent, des représentations différentes. Et donc là, à ce moment-là, il s'agit aussi d'être vigilant, quoi, d'être conscient de ça et de se dire, attention, il faut aussi aller voir telle personne et aller voir. Mais après, est-ce que je le fais suffisamment ou est-ce que je me dis, non, il faut quand même, c'est quand même le discours de l'acteur que je veux privilégier. Oui, mais l'acteur, comme on en a parlé au début de l'émission, il vient d'une certaine catégorie sociale et il vient d'un certain milieu et qui en plus est proche du mien. Et donc, si cette tension, tu trouves qu'elle s'entend, c'est une assez bonne nouvelle pour moi parce que ça veut dire que j'arrive à relayer ce point de vue-là quand même.
Comment tu fais pour te limiter face à un sujet du nombre de personnes à rencontrer ? Quand est-ce que tu décides que tu as fait le tour de la question, peut-être outre des aspects aussi matériels de temps, mais...
Oui, il y a des aspects de temps. Il y a l'aspect... Ça va plus être dans la construction formelle, en fait, du reportage. C'est-à-dire, est-ce que j'ai assez de discours pour construire finalement mon propre reportage d'une demi-heure. Est-ce que dans ce que j'ai enregistré, j'ai un début, un milieu et une fin finalement ? Et c'est plus ça qui va guider des fois. Il y a certains, le premier sujet de janvier là, qui va être sur les vins du coin. Ça s'entend un petit peu d'ailleurs, mais j'ai quasiment seulement eu à poser la même question à 3 vignerons. Ils ont répondu de manière très différente les uns des autres. Et finalement, avec 3 questions, j'avais quasiment mon reportage clé en main, quoi. Donc bon, ça ne se passe pas toujours aussi simplement que ça, mais voilà, il faut, sur le terrain, anticiper le travail de rédaction et le travail de montage et est-ce que j'ai finalement de quoi construire un récit cohérent, quoi, sur une demi-heure. Et voilà. C'est plus ça qui va définir le nombre d'interlocuteurs.
Ouais. Justement, tu en viens un petit peu à cette idée de la fabrique de l'enquête. Quand tu as une intuition de sujet ou quand tu entends parler d'une initiative qui pourrait t'intéresser, quel est ton cheminement ? Comment ça se passe un petit peu derrière ce que nous, on entend à la radio ? Ça commence comment ? Est-ce que déjà, par exemple, comment tu fais pour rechercher tes sujets ou tes initiatives, tes projets ?
Je me pose la question quand je recherche plus, quand j'en trouve plus. Je me dis mince, mais comment j'ai fait pour trouver les autres ? Souvent, c'est relativement par hasard, quoi. C'est des réseaux aussi que du coup je connais moi-même et donc qui vont aussi orienter vers d'autres initiatives dans le même domaine. Ou du coup, on garde aussi les yeux et les oreilles ouvertes. Quand j'ai commencé à travailler pour cette émission en avril. On regarde plus attentivement la presse locale ou les groupes Facebook. En fait, on est bombardé d'informations en permanence. Et la plupart du temps, on en met les 9 dixièmes à la poubelle. Et du coup, là, en travaillant pour cette émission, on a l'attention qui se réveille quand il y a ces sujets-là qui sont évoqués. Et donc, tout de suite, dès qu'on entend parler d'une initiative, que ce soit dans une conversation, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans le journal... Et on se dit, tiens, est-ce que cette initiative, avec ce que j'en sais maintenant, est-ce que ça pourrait faire une émission ? Si c'est non, et que je continue à creuser, est-ce que là, ça peut en faire une émission ? Et voilà. Et après, c'est oui ou non, quoi. Et après, c'est en appelant les personnes. Une grande partie du sujet, il se fait déjà au premier coup de fil, avant même que je sois sorti du studio, quoi. La personne, elle raconte une première fois son initiative, sa façon de voir les choses, et le temps de caler un rendez-vous, d'essayer d'incarner le sujet sur le terrain, par un événement ou par une... Oui. Déjà là, on construit largement le produit fini, en fait.
Est-ce que tu peux nous rappeler un souvenir que tu as de justement de terrain où tu as été et que tu pourrais nous faire partager
On peut écouter, oui, le début peut-être du reportage sur le truc festif.
Mm-hmm. Alors là, le truc festif, tu es au début du festival, c'est ça ? Enfin, tu es à l'entrée.
Mais c'est le début du reportage, mais c'est la fin du festival, en fait. On peut l'écouter et puis j'en parlerai tout à l'heure.
Ça Ça marche.
Avec 15 éditions au compteur, le truc est sans doute l'une des premières manifestations culturelles du Blaisois à habiter des lieux insolites en milieu rural. Cette année, le Cirque démocratique de Belgique se produit en clôture du festival sur la terrasse du château de Madon. Devant le portail, Christophe Buffet, président de la clique du truc, fait entrer les derniers retardataires.
Le truc festif, c'est un festival de théâtre de rue, un peu dans les champs, un peu dans les jardins, un peu sur les terrasses de châteaux, qui dure maintenant depuis, c'est la 15e édition cette année. À l'origine, en fait, c'était de vouloir faire sortir les... Ouais, super. De vouloir faire sortir la culture des lieux dédiés à la culture. C'est pour ça qu'on a... On a décidé de la première année de faire des spectacles un peu dans une clairière, sous un hangar, dans une grange. La première année, il a plu, on a tout rapatrié. La deuxième année, il a plu. La troisième année, il a plu. Et la quatrième année, on a eu beau temps. Et pour la première fois, on a pu faire ce qu'on voulait. Et on a fait des spectacles dans des bergeries, dans des pressoirs, dans des granges, évidemment, dans un séchoir à tabac une fois, dans un verger, dans des jardins, évidemment. Donc voilà, en essayant d'offrir des conditions d'accueil optimum et au public et aux artistes. On aime bien ça, la culture. On est spectateur de festivals. On va dans les théâtres, dans les lieux institutionnels. Et puis, on est aussi habitant du milieu rural et on voulait recréer un peu au départ une espèce de fête de village fantasmée, telle qu'on a envie de croire qu'elle a existé. On a décidé de la faire. Donc ici, à Madon, le lieu se prête particulièrement bien.
Alors voilà, c'est un extrait du début du reportage que j'ai fait sur le truc festif. Mais comme je le disais juste avant, je l'ai enregistré à la toute fin parce que c'est le président de l'association qui organise le truc festif, donc Christophe Buffet, qui fait la billetterie du dernier spectacle de la journée, alors qu'il vient de commencer, quoi. Et donc moi, je devais parler au président de l'association qui organise le truc festif. Forcément, pendant la journée, il n'avait pas une seconde à me donner. Et il n'y a que à ce moment-là qu'il était disponible. Mais au final, c'est pas si gênant que ça. Bon, on entend dans l'extrait qu'il se retourne pour parler avec des gens à qui il prend les billets. Mais moi, ça m'a aidé dans la construction de mon sujet parce que je me suis dit, comme souvent, je vais commencer par une présentation assez générale de la structure avant de commencer vraiment mon récit. Mais là, j'ai pu commencer mon récit d'emblée parce que voilà, le reportage commence et je dis que je suis déjà sur le terrain avec mon micro et je vois Christophe Buffet en train de faire ça. Je vais le voir et le sujet démarre comme ça. Et donc ça, c'est ce que j'essaye de faire. Souvent, c'est assez facile d'avoir cette présentation générale au début dans la construction de la suite du sujet. Mais ce que j'essaye vraiment de faire, c'est de pouvoir l'inclure de pouvoir finalement inclure le fait que je sois présent dans le récit en disant, bah voilà, telle personne m'emmène sur le terrain dans sa voiture ou je vois telle personne en train de faire la billetterie.
Oui, c'est un peu une marque de fabrique dans ton mode de construction. On te suit vraiment en reportage, c'est-à-dire qu'on t'entend arriver, effectivement, être en voiture, tu le racontes, ou alors on entend la situation où tu dis, voilà, telle personne a accepté de s'arrêter. On est en route, mais elle a accepté de s'arrêter pour me parler de ça. Du coup, c'est comme si vraiment tu recomposais ton enquête.
Oui, et comme je disais, ça aide à donner une unité aussi, parce que cette présentation générale d'une structure dont on a besoin pour se donner les clés nécessaires pour comprendre la suite, ou... Souvent, elle peut être un peu, et ça arrive, parce que j'arrive pas toujours à faire comme ça, elle peut paraître un peu détachée du reste du reportage. Et donc là, eh ben, c'est peut-être plus difficile pour l'auditeur pour ensuite identifier qu'il écoute la même chose depuis le début à la fin et que finalement, ce dont on te parle au début, eh ben, c'est ce que t'entends dans la suite du reportage, quoi. Et donc le fait de pouvoir comme ça l'inclure, faire que cette discussion que j'ai avec cette personne... Elle fait partie finalement de l'événement que je suis en train de vous raconter. Et ben ça, je pense que ça facilite et ça fluidifie le discours. Ouais.
C'est quand même pas facile de documenter la relation ville-campagne parce que c'est quand même très immatériel et c'est aussi beaucoup de modes de vie et que les modes de vie diffèrent évidemment entre chaque personne et qu'on peut pas vraiment non plus définir exactement ce qu'on regarde. Donc c'est par les projets souvent que tu trouves les sujets, mais... Moi, par exemple, il y a des sujets que je trouve passionnants qui sont vraiment le logement, le désir d'habiter dans ces endroits-là. Pas forcément le pavillon, tout simplement la représentation du logement, de je construis ma vie à cet endroit-là et pourquoi. Mais ça, c'est effectivement très immatériel et ça prend peut-être des formes compliquées à raconter.
Et puis quand on travaille dessus, on voit aussi que finalement, relation ville-campagne, plus on travaille sur cette relation ou sur les espaces à la marge entre la ville et la campagne, que finalement, ces concepts-là, plus on zoome dessus, moins ils sont visibles finalement.
Moins ils sont effectifs,
ouais. Ouais. En effet, ça va être relation ville-campagne, ça va être des gens qui ont habité à la ville et qui habitent à la campagne. Ça, c'est une relation ville-campagne, mais ce n'est pas une relation...
spatiale.
Ouais, voilà, qui est immédiate dans le temps, quoi. C'est au sein d'une personne qu'elle va se trouver ou intériorisée, quoi. Donc, la relation ville-campagne, c'est pas la relation entre un espace urbain A d'une part et un espace rural B de l'autre, quoi. Ça fonctionne jamais comme ça.
Ça, c'est un peu quelque chose que tu as. C'est une réflexion que tu t'es faite au fur et à mesure du projet.
J'y suis venu assez rapidement et au fil d'interview aussi, une interview qui conclut l'un des premiers sujets que j'ai fait sur Dérive justement, où un paysagiste raconte que la rupture ville-campagne, elle n'existe pas, parce que c'est la même qu'existe entre un quartier central et un quartier périphérique par exemple. La relation entre le centre gentrifié de Blois et les quartiers nord de Blois, la rupture, elle est au moins d'aussi grande importance qu'avec les campagnes environnantes, sinon plus importantes. Donc, ville-campagne, c'est des concepts qui sont forts parce que ça appelle des représentations qui sont à la limite caricaturales dans nos esprits. Donc quand on dit ville, on voit tout de suite de quoi on parle. Quand on dit campagne, on voit tout de suite de quoi on parle. Mais c'est comme tout à l'heure, quoi. En effet, on voit ce qu'on veut dire, mais quand on regarde et qu'on commence à regarder au plus près des choses, on voit que finalement, la réalité même de ces concepts, elle est pas si solide que ça, quoi.
C'était une envie aussi de ce projet, c'était de en regardant vraiment, en osant vraiment regarder ce qu'on ne veut pas regarder, du coup qu'on caricature très facilement. Et de regarder vraiment les gens qui y vivent, pourquoi. Et effectivement, comme tu le dis, c'est beaucoup plus complexe que ça et ça ne peut pas se résumer aussi vite.
Ouais, non, et quand on... c'est ça, quand on... c'est comme quand on zoome, on floute en même temps, quoi. C'est la même chose qu'avec un appareil photo ou qu'avec. Et tout ça, finalement, c'est des relations qui sont très atomisées, quoi. C'est des relations d'institution à institution, voire de personne à personne, qui construisent ces rapports tous les jours. Et donc certes, il y a ces représentations rattachées à la ville, rattachées à la campagne, mais aussi rattachées à des origines ethniques et culturelles, rattachées à des classes socio-professionnelles. Et finalement, ces classes-là, elles décrivent pas nos matières d'être, c'est nos matières d'être qui sont influencées par ces modèles et ces représentations-là, et qui font que, par exemple, la relation entre un agriculteur et un PDG, ça va être une relation ville-campagne. Mais on se rend compte que finalement, la causalité, elle est inversée, quoi. Ces concepts, ils sont pas dérivés de la réalité, mais la réalité, elle est créée ou perçue et créée en même temps à partir de ces concepts, quoi.
À écouter tes reportages, je me disais, c'est... contrairement à ce que je ressens quand je vois des images animées qui ont été filmées sur le terrain, moi j'ai vraiment l'impression aussi que d'une certaine manière tu collectes des instants qui se sont passés, donc aussi des mémoires, mais des mémoires hyper populaires, hyper quotidiennes, et que le son permet en quelque sorte aussi de garder des voix, garder des instants, garder des émotions. Parfois on entend des habitants, on sent que voilà, le micro effectivement disparaît, beaucoup plus discret à mon avis pour eux. Et puis du coup, ils sont vraiment en train de raconter un souvenir, comme leur souvenir de campagne d'avant. Donc c'est vrai que l'aspect sonore, et aussi parce que par ton jeu d'ambiance, que c'est vrai que tu nous mets en ambiance très souvent. En même temps, on a tout un espace qu'on s'imagine, quoi.
Oui, l'ambiance, ça permet cette spontanéité dont tu parlais justement. Parce que c'est vrai que même l'entretien, même avec seulement un micro et pas une caméra, les gens, ils sont en entretien. Donc il va avoir un discours... comme quand ils sont en entretien, et c'est un discours qui va être peut-être plus monotone et en tout cas moins spontané, alors que quand on arrive comme ça à poser son micro, les gens nous voient, mais ils discutent entre eux, donc ils discutent comme s'ils discutaient tous les jours. Et là, on a un discours qui va être plus spontané et l'information, je pense, passe mieux comme ça. Elle est moins efficace parce qu'on peut dire moins de choses en autant de temps que dans un entretien. On va pouvoir maximiser vraiment le nombre d'informations qu'on met à la minute, entre guillemets. Alors que dans ces échanges d'ambiance, certes, on va peut-être avoir une information sur 5 minutes d'ambiance, mais au moins le message passe bien, quoi. Il va permettre de bien appuyer sur ce qu'on a essayé de faire ressortir dans un entretien avant ou même dans une narration pendant laquelle l'auditeur peut s'endormir plus facilement, quoi. Surtout, c'est la radio, donc on fait autre chose en même temps. Donc si on essaye de tout faire passer comme ça en narration ou tout en entretien, c'est compliqué.
Tu fais très attention à ça, au rythme et à la façon dont ce sera reçu par l'auditeur. C'est quelque chose qui est important.
Bien sûr. Je préfère réduire le nombre d'informations que je vais vouloir transmettre. C'est pour ça qu'il faut que ça fasse un tout, un reportage, une espèce de discours unique du début à la fin. Et il ne faut pas avoir peur de se répéter, il ne faut pas avoir peur, parce que c'est la nature même de la radio. Les gens, ils écoutent le début, mais ils ne vont pas écouter la fin, ou inversement, ou alors ils sont en voiture quand ils font ça, donc ils ne sont pas 100% concentrés, ou alors ils font la vaisselle, donc un bruit d'assiette et on rate une phrase. Moi-même, en tant qu'auditeur de radio, je sais ces choses-là. Et après, du coup, je sais que moi-même, il faut que j'y fasse attention, et que, à la fin d'un reportage d'une demi-heure, on a déjà oublié le début, donc il faut rappeler ce lien à la fin, et ça, je le fais beaucoup aussi. Vous rappelez ce qu'on a déjà dit au début et pourquoi ça sert le discours que je vous dis, l'argument que je vous sers maintenant, en fait.
On peut peut-être rappeler aussi que le projet comprend deux autres formes. Vous connaissez bien les émissions maintenant de Feuilles Vives, mais aussi il y a les sorties du studio mobile. Il y en a déjà une première que tu avais organisée sur la question de la culture en milieu rural.
Ouais, en clôture de Va jouer dehors, donc un festival de musique classique plutôt au sud de la Loire.
Il y en aura deux autres a priori pendant le projet, et le prochain, tu as au moins le sujet en tête.
Ouais, le sujet et un lieu déjà, donc ce sera en janvier-février au bar de Chambon. On va investir un petit peu ce bar-là, qui est très sympa, qui garde plein de côtés du commerce rural traditionnel, avec tabac, presse. Mais en même temps, ceux qui font ça, ils travaillent à côté. C'est des grands fans de vin nature, donc ils essayent de convertir tous leurs clients au vin nature. Ils organisent des concerts de temps en temps. Il y a beaucoup de gens de Blois qui viennent. Donc même s'ils gardent ce côté commerce rural classique, ils apportent en même temps... Je crois que le gérant travaille à Paris ou quelque chose comme ça. Donc il y a une vraie interface, justement, ville-campagne qui existe à cet endroit-là. Donc on a trouvé ça intéressant de l'habiter. Et du coup, le thème, ce sera les commerces en milieu rural. Donc on va essayer d'inviter un épicier qui s'est installé il n'y a pas longtemps à Chambon, un camion de pizza, un café associatif. Enfin, vraiment diverses formes, qu'elles soient solidaires ou intéressées ou peu importe, d'animer ces bourgs-là.
Et puis la troisième forme, c'est aussi tout ce qui est écrit. Donc là, on peut inviter les auditeurs à retrouver, comme on en a parlé tout à l'heure, les articles et les futurs objets éditoriaux qui pourront être faits à la suite du projet. Mais on n'y est pas encore.
Et ouais, mais j'essaye dans les articles d'apporter quelque chose de différent, de pas trop me répéter.
Ouais, on peut vraiment apprendre beaucoup de choses en écoutant et en lisant. Les différentes choses que tu proposes sur le site. Donc c'est sur le site de Studio ZEF. C'est un onglet spécial qui s'appelle Feuilles Vives.
C'est ça.
On peut tout retrouver. Merci pour ces échanges passionnants à mi-parcours avec toutes ces belles expériences que tu nous fais découvrir.
Mais de rien.
À bientôt, Nicolas.
À bientôt, bon après-midi. Quelle belle vallée avec ses fermes et ses fermiers. Avec ses graines et ses greniers, Gondé. Quelle belle vallée, avec ses cucurbitacées, avec ses cultures labourées, l'été. Les saisons font le con, à travers toutes les saisons, le ciel fond tout en larmes, à chaque coup de feu d'une arme. Les chariots, les chenus et les chevaux tombent en rade. Quelle salade à chaque coup de claironnade.